Chers amis mélomanes, amateurs d'opéra, bonsoir. Votre serviteur, Christian Segarici, ainsi que Nancy Zautier, réalisatrice de Opéra Gora. Ce soir, nous évoquons le Carmen de Bizet. Georges Bizet, le génial compositeur, novateur, tout d'abord incompris, avant d'être porté au nu, si bien que ses opéras comptent parmi les œuvres les plus jouées dans le monde. C'est d'ailleurs souvent le cas en matière d'opéra. Le public est souvent surpris car il ne retrouve pas ses habitudes et boude son plaisir devant la nouveauté. Mais, peu à peu, le temps fait son œuvre. Le chef-d'œuvre finit toujours par s'imposer. Nancy, la réalisatrice, est à son poste et nous pouvons commencer maintenant. Alors, Bizet, quelques mots sur ce génie mort si jeune, comme beaucoup d'ailleurs d'autres génies musicaux, Mozart, Schubert, Chopin, etc. Bizet, enfant prodige du piano, Grand Prix de Rome à 19 ans. Il a développé une personnalité tout à fait particulière, en grande partie grâce à sa mère, pianiste concertiste. Il est né en 1838 et mort en 1875 à 36 ans. C'est bien court hein, pour construire une grande œuvre. Ses opéras célèbres sont « Les pêcheurs de perles », « La fille de Perse » et surtout, bien sûr, son chef-d'œuvre qui nous occupe ce soir, « Carmen ». Carmen, d'après la nouvelle de Prosper Mérimée. Tout d'abord, chef-d'œuvre incompris, qui fut même un échec à sa création en 1875. Mais qui avait pour défenseur deux grands génies en la personne de Nietzsche, le philosophe, qui, lassé des sagas germaniques, découvrait cette musique méditerranéenne pleine de couleurs et de rythmes, et surtout en la personne de Tchaïkovski, le grand compositeur russe, qui avait très justement prédit que Carmen serait bientôt l'œuvre la plus jouée dans le monde. Malheureusement, Bizet ne verra jamais son opéra triompher. Il faut dire que l'œuvre semblait maudite. Déjà, le personnage impudique de Carmen déplaisait à un public moralisateur. Verdi, avec sa Traviata, avait déjà eu cette déconvenue. Ensuite, au départ, l'œuvre contenait des passages parlés souvent mal déclamé par des chanteurs étrangers, italiens souvent, peu comédiens et parlant mal le français. Et cela devenait véritablement incompréhensible. Heureusement, Ernest Guiraud les a transformés par la suite en récitatifs chantés très réussis. Le public avait aimé la féerie des pêcheurs de perles, mais il s'était effarouché devant cette musique de tintamarre, comme disait Nietzsche. Enfin, l'œuvre semblait maudite. La chanteuse Galie Marié, qui chante le rôle principal, est la maîtresse de Bizet, qui, lui, a épousé la fille du compositeur Halévy, le célèbre compositeur de la Juive. Un autre grand chef-d'œuvre. Car ce Bizet est un personnage énigmatique et virevoltant. Sa vie est douloureuse. Son fils, Jacques, meurt à l'âge de 3 ans. Le destin semble menacer Bizet qui, lors d'une représentation de Carmen, a une rupture d'anévrisme pendant l'ère Descartes. L'ère Descartes qui prédit justement la mort. La mort, toujours la mort. Extravagant, Il prend alors, pour se soulager, un bain glacé dans la Seine, qui lui sera maléfique. Et le fiasco de Carmen finira par l'achever d'un infarctus en 1875. Par son génie et sa vie extravagante, il me fait penser à Mozart, avec lequel il semble partager une grâce musicale divine, mais aussi une vie bien difficile. Alors, pour nous mettre dans l'ambiance, eh bien, rien de mieux que d'écouter maintenant le tout début de Carmen, c'est-à-dire son prélude. Prélude que tout le monde connaît maintenant, tant il a servi notamment pour débuter certaines émissions de la télévision ou encore des publicités, bien entendu. Écoutons ce prélude. Début de l'œuvre, le rideau s'ouvre et arrivent donc les gamins qui se moquent des soldats qui montent la garde sur la place de Séville. Et ces gamins vont chanter le chœur fameux des gamins que, bien entendu, l'on travaille dans toutes les maîtrises de conservatoire. C'est une œuvre pleine de jeunesse, bien entendu, un petit peu ironique, accompagnée par la flûte piccolo. C'est un morceau très attendu, bien entendu, souvent par les parents qui sont impatients d'entendre leur gamin dans ce joli chœur pour enfants. Écoutons ce chœur pour gamins. Thank you. C'est l'entrée de Carmen, la séductrice, cigarette au bec. Elle charme ces messieurs qui sont là tous les jours, qui la surveillent dès que la cloche sonne et que la fabrique de cigares va ouvrir ses portes. Eh bien, les cigarières sortent et Carmen en tête et vient naturellement pour charmer tous ces messieurs. Écoutons-la les charmer en parlant de l'amour qui est sa spécialité. Écoutons la célèbre habanera qui, comme son nom l'indique, est issue du folklore de la Havane. Écoutons Elena Garancha, Habanera.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vin qu'on l'appelle s'il lui convient de refuser. Et en effet, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends.
C'est un morceau incontournable. Là aussi, la pub en a fait son fétiche musical. C'est le support de pratiquement une publicité sur deux à la télévision. Tout le monde a fini par connaître cette musique un peu plus par la pub que par l'opéra en réalité. Tout le talent de Bizet consiste à nous transporter musicalement dans cette Espagne qu'il n'a jamais vue, mais qu'il imagine, avec cette retenue, cette discrétion, quant à l'évocation du folklore, qui est souvent plus vrai que vrai, tant elle est repensée par un grand artiste, ne se contentant pas de plagier le vrai folklore, souvent un peu lourd et incompatible avec l'opéra romantique de cette fin de XIXe siècle. Le rythme est conservé, mais la ligne mélodique de cette jolie valse espagnole qui nous occupe maintenant, la ligne est bien plus élégante que les chansons des zarzuelas traditionnelles, et cela s'imbrique fort bien dans l'écriture savante de l'opéra. Écoutons donc la séguédille qui termine le premier acte de Carmen. Écoutons Teresa Berganza et Placido Domingo. Voilà la séguédille.
Yeah.
plaisirs sont à deux. Donc, pour me tenir compagnie, j'emmènerai mon amour. Mon amour, il est au diable. Je l'ai mise à la poche hier. Ma pauvre cœur, très consolable. Ma cœur est libre comme l'air. J'ai des galons à la douzaine, mais ils ne sont pas à mon gré.
Je parlais d'une épargne parée.
Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même. Et je pense, il n'est pas défendu de penser. Certain officier qui m'aime et qu'à mon tour, oui, qu'à mon tour, je pourrais bien aimer.
Mon
officier n'est pas un capitaine, pas même un lieutenant. Il n'est que brigadier. C'est assez pour une bohémienne. Et je daigne m'en contenter.
Cadel, je suis comme un livre. Suis-je serre, suis-je ma livre. Ta promesse, tu l'as, tu l'as pas. Je ne lasse pas si tu me promets, Carmen.
Maintenant, nous commençons le deuxième acte. Et au lever de rideau, directement, pas de prélude, pas d'ouverture musicale, directement, la fameuse chanson bohème. Alors, cette chanson, avec plusieurs couplets qui vont de plus en plus vite, de plus en plus rythmés, et qui vont finir sur un orchestre à très grande vitesse, avec un rythme échevelé, et bien entendu le corps de ballet qui entoure Carmen en l'occasion. Cette chanson bohème a été une grande réussite, et elle est souvent interprétée toute seule, pendant les concerts de musique, sans même les chanteurs, voyez-vous, tant la mélodie se suffit, et surtout le rythme et l'orchestration rutilante conviennent tout à fait à une œuvre pour orchestre seul. Chanson bohème, là, bien entendu, c'est la version chantée. Écoutons toujours la sublime Elena Garanča. Chanson bohème.
Sur cette étrange musique, les cigarelles se levent. Tambour de basse et les guitares forcenées, grâce à ceux des mains obstinées, même chanson.
Cette chanson bohème, eh bien, c'est l'entrée d'un personnage clé qui va être le rival du pauvre Don José qui se meurt d'amour pour cette Carmen, la sorcière qui l'a enjolée, qui maintenant eh bien, a fait sur lui un effet désastreux, car ce soldat, Don José, a fini par déserter l'armée, il est devenu ni plus ni moins qu'un contrebandier au service de Carmen et de toute sa clique. Et ce personnage qui arrive maintenant, c'est donc un rival potentiel pour Don José, c'est le beau toréador dans son habit de lumière, Escamillo. Naturellement, toutes les femmes en sont folles. En plus, bien entendu, il est courageux. Hein. Il est courageux, il remet sans arrêt eh bien, sa vie en jeu dans les arènes. Et cela, plaît beaucoup, bien entendu. Alors, Bizet nous fait un portrait musical d'un personnage fanfaron, mais courageux. Là aussi, c'est une œuvre extrêmement populaire, qui figure déjà d'ailleurs, sa musique, on l'entend déjà dès le premier prélude de Carmen. Écoutons maintenant donc le baryton Roberto Tagliavini, Toreador.
No!
au deuxième acte, toujours, Don José, envoûté par Carmen, doit écourter son rendez-vous avec celle-ci, car, en bon soldat qu'il était, qu'il continue un peu à être, il doit s'empresser de rentrer à la caserne. La belle entre dans une rage folle et veut rompre, bien entendu, définitivement leur idylle qui est déjà bien entamée. Le pauvre Don José, prêt à tout pour conserver les faveurs de la belle, perd toute dignité et à genoux lui déclare son amour désespéré dans l'un des plus grands airs de ténor du répertoire, le célébrissime « La fleur que tu m'avais jetée ». Écoutons Roberto Alagna dans cette page sublime, « La fleur que tu m'avais jetée ». modernisme. Quelle modulation savante de Bizet pour l'année 1875. C'est vraiment très 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 moderne. Les harmonies sont très audacieuses et la ligne mélodique absolument merveilleuse. Pour moi, ce morceau est un souvenir inaltérable, si lointain mais si vivace à la fois, dans ma mémoire. Car j'avais obtenu mon prix de direction d'orchestre au conservatoire en accompagnant le grand ténor australien Albert Lance dans cet air qu'il chantait mieux que quiconque, avec sa bonhomie et son immense talent. N'oublions pas qu'il a été longtemps le partenaire de la Callas, c'est vous dire. D'ailleurs, on le voit dans un document incontournable filmé le deuxième acte de la Tosca à l'Opéra de Paris avec la Callas et l'inénarrable Tito Gobbi. Pour ce qui est de la tradition de cette émission Opéra Agora, que je vous raconte chaque fois une petite anecdote, un petit souvenir savoureux ou pas, vécu au cours de ma carrière. En voici une d'anecdote absolument vraie, mais difficile à croire, et pourtant. Concernant donc cet air de ténor, la fleur que tu m'avais jetée. Le ténor en question était l'excellent Vassilije Moldoveanu, qui était un spécialiste de Don José dans les années 1990. Il était excellent, chantait à la Scala, au Metropolitan de New York, enfin bref, le ténor en vogue. J'étais ravi, vraiment, il était très bien. Mais le lendemain de la répétition générale, il est atteint d'une péritonite aiguë et hospitalisé d'urgence. Il faut alors le remplacer car la première de l'opéra est le lendemain soir. Comment faire ? Téléphone, téléphone, téléphone. Le seul ténor disponible est une star italienne qui répète à Paris, Andrea Chénier. Il accepte de venir, il connaît très très bien le rôle, il a même enregistré, c'est un immense ténor. Il arrive une heure avant la représentation. Fatigué par un voyage harassant, il chante cet air si mal que je suis obligé de le laisser finir a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement de l'orchestre, tant il chantait faux, bas, et avec l'orchestre, ça aurait été une catastrophe. Bronca du public furieux. Le ténor vexé à mort, et on comprend bien entendu, il était venu sauver une situation, et il se fait houspiller par le public, il veut partir. Et il faut toute la diplomatie du metteur en scène pour le convaincre de venir chanter le troisième acte, car il avait déjà commandé son taxi pour repartir. Finalement, pendant l'entracte, au bout de tractations, de suppliques, eh bien, il revient. Et là, il chante merveilleusement tout le troisième acte, et le public lui fait un triomphe interminable. Voilà, c'est ça l'opéra. Ombre et lumière. Passons au troisième acte, avec l'air célèbre de Michaela, la soprano de la pièce. Car Carmen est une mezzo-soprano, c'est-à-dire une voix grave. La jeune Michaela, qui aime vraiment son Don José et qui essaye de le tirer des pattes de cette sorcière de Carmen qui a réussi à le transformer en véritable bandit, eh bien, cette jeune fille affronte courageusement le danger, la nuit, les contrebandiers. Elle a peur et elle chante un air absolument magique, je trouve, qui a été surtout remanié avec brio par Guiraud, Ernest Guiraud, qui a transformer le texte parlé en récitatif. Et cet air, eh bien, il lui a mis un récitatif fameux qui déjà, rien qu'à lui seul, conduit au succès. C'est des contrebandiers, leur refuge. C'est merveilleux. Écoutons cet air par Mademoiselle Angela Giorgio. Ce temps, Carmen se fait tirer les cartes. On voit son avenir tout en noir. Et La carte de la mort revient tout le temps. La mort, toujours la mort. C'est un très bel air plein de suspense et d'angoisse, où la mezzo montre son grave et son art du phrasé. Écoutons cette prédiction terrible, la mort, toujours la mort. Écoutons Mademoiselle Garancia. José n'en restera pas là. Il ira attendre Carmen à l'entrée des arènes où doit se produire le beau toréador. La belle refuse de se soumettre et ridiculiser Don José qui finit par le poignarder. On oublie quelquefois de voir en Carmen une femme libre et qui défie le destin au péril de sa vie. préférant la mort à l'obéissance, comme le personnage de Don Juan, son pendant masculin. C'est un chef-d'œuvre, ce Carmen, grandiose, même philosophiquement, avec une véritable morale, une éthique, et une apologie de la femme sous toutes ses facettes, la femme moderne, la femme libre, qui n'obéit à personne. J'en profite donc pour remercier, bien entendu, Nancy, qui met pour nous en onde tous ces petits extraits que je choisis dans ma mémoire. Et maintenant, eh bien, nous allons écouter la fin de Carmen en vous saluant, en vous souhaitant un mois agréable, puisque le prochain rendez-vous, ça sera le mois prochain, comme d'habitude. Et je vous laisse écouter maintenant ce duo final par Anne-Sophie von Hotter et Marcus Haddock. C'est toi, c'est moi. L'on m'avait averti que tu devais venir. Et ça va tourner au drame, car bien entendu, Don José va poignarder la belle et ensuite, eh bien, il sera mis en prison. Voilà comment se termine ce chef-d'œuvre. Merci de votre écoute. Bonsoir.
Averti que tu n'étais pas loin, que tu devais venir. L'on m'avait même dit de craindre pour ma vie. Mais je suis brave, je n'ai pas voulu fuir.
Je me menace pas, je pleure. Je supplie.
Tu demandes l'impossible, Carmen jamais n'a menti. Son âme reste inflexible. Entre les toits, c'est fini. Jamais je n'ai menti.
Il est temps encore. Oui, il est temps encore. Oh, ma Carmen, laisse-moi te sauver. Toi que j'adore, laisse-moi te sauver. Il me sauvera.
Je sais bien que tu es là. Mais que je vive ou que je meurs, non, 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 je ne te séduirai pas.
Il est temps encore. Oh!
Anna Makina.